Coin Robert.
Bonjour Alexis.
On va parler de radio en Innu aujourd'hui en deuxième partie de l'émission.
Mais on va parler surtout en première partie. Pour et avec elle.
Oui, avec une artiste qui est une poète, une artiste visuelle, une militante pour les droits autochtones et pour l'environnement, une comédienne, une chanteuse.
Et une écrivain. Et une autrice, qu'il faut dire.
Une autrice.
Toi, tu la connais?
Oui,
quoi? Moi, je la connais pas, mais je la connais un peu mieux parce que j'ai pas mal lu en détail son livre.
Quoi, Natacha?
Quoi, Alexis, quoi?
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Ben, nous, ça va bien parce qu'on vous a avec nous pour l'émission, puis on est très, très, très contents. C'est un sacré beau livre.
Merci.
On va commencer comme ça, là.
Moi, ben, vite encore, je l'ai lu, j'ai fini de le lire un matin avant l'entrevue.
Non, c'est vraiment intéressant. On va poser tout de suite la première question, Natacha. C'est un premier roman et vous avez trouvé, à travers la littérature, à travers l'art, une façon de faire votre recherche personnelle, identitaire. C'est ça qui est intéressant le plus, je pense, dans le livre.
Ouais, j'ai vraiment voulu, mais depuis longtemps, même avant d'écrire, j'étais en art visuel. Et ma recherche identitaire faisait déjà partie de ma quête, de justement mes recherches en illustration, en peinture et tout ça. Puis finalement, l'écriture me permettait de pousser encore plus ma quête. Et finalement, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui, finalement.
Il y a une phrase que je voudrais lire, puis vous la faire commenter, évidemment. Ça dit ceci dans le livre. J'aimerais lui dire que j'y arrive tant bien que mal, que je cherche les assises, les repères, les portes. J'aimerais pouvoir toucher la peau du castor une nouvelle fois, sentir la brise se lever tout en recevant l'odeur du feu et de la viande qui grille. Si je ferme les yeux, mon rêve disparaîtra. Ce qui veut dire que votre identité, vous en rêvez plus que vous lui touchez parfois.
Je dirais que cet extrait notamment, moi aussi c'est un de mes préférés parce que c'est en fait un désir très profond de retrouver, par exemple, mon grand-père qui était un chasseur-trappeur et qui est décédé il y a une dizaine d'années maintenant, en fait, puis il était très proche notamment du castor spécifiquement. Et quand j'étais enfant, j'habitais avec mes grands-parents et je le voyais souvent dépecer le castor, puis prendre la peau, puis finalement l'étendre sur des grandes branches de bois dans la cour arrière. En fait, donc j'avoue que certaines images, notamment de ce grand-père-là dans le livre, viennent de vraies images, de souvenirs de lui que j'ai. Et j'ai vraiment voulu comme l'accompagner puis l'évoquer pour qu'il me guide aussi dans l'écriture du livre, donc je l'avoue. Et dans cet extrait-là, en fait, c'est vraiment mon profond désir. C'est parce que ce souvenir-là m'habite tellement que quand je l'ai écrit, il était là, mais je me disais, si j'ouvre les yeux, ce n'est plus là, parce que maintenant, je suis, tu sais, en 2021, 2020, puis Je suis dans mon monde aujourd'hui, et ça, c'était il y a plus de 20 ans, il y a 20 ans. Mais en même temps, je voulais créer comme un opposé ou un contraire en disant, je n'ouvre pas les yeux, si je ferme les yeux, mon rêve disparaîtra, parce que des fois, quand je pense à mon grand-père, je rêve éveillé, donc je rêve les yeux ouverts. Ben,
c'est formidable. Donc, là, vous écrivez le mieux, c'est les yeux fermés, Natacha?
Des fois, oui, c'est vrai. Je regarde pas mon clavier des fois quand je...
Yeah, vous parlez d'une chanson qui vous a beaucoup marqué. Très court. « I am here looking for a nest to hold my skin and rest from my fears. » L'important, les craintes et les peurs.
Ouais.
Ça vous a empêché d'atteindre aussi vite que vous auriez voulu votre identité?
Ben, c'est sûr que oui, dans le sens qu'après, je pense qu'il y a parfois on peut avoir l'impression qu'être autochtone en surface, puis surtout avec tout ce qu'on a reçu de la culture populaire, notamment de la culture américaine pendant très longtemps, du cinéma, d'Hollywood et tout ça, c'est que être autochtone, c'est presque une fantaisie. Alors qu'en réalité, retrouver son identité, ça ne se fait pas sans toutes ces craintes et ces peurs qui émanent. Et surtout quand on commence à apprendre à connaître l'histoire, en fait, de nos peuples, et puis à quel point non seulement toutes ces politiques d'assimilation ont été créés à chaque fois qu'on n'a pas été capable de nous effacer. On vit aujourd'hui avec les conséquences de ces politiques-là, et non seulement sur nos vies, mais aussi sur nos corps au quotidien. Et ça fait que, oui, on a des craintes, des peurs, des fois innombrables, mais parfois on a l'impression qu'elles sont impossibles à passer par-dessus, à outrepasser, mais finalement, retrouver son territoire, retrouver sa culture, en fait, c'est des éléments qui, moi, personnellement, m'ont vraiment aidé à outrepasser tout ça, puis finalement, à trouver la paix.
Le personnage s'appelle Monica, mais il y a des gros morceaux de Natacha dans Monica.
Des gros morceaux de moi, de mon passé, de mes expériences, mais en même temps, pour avoir, c'est sûr, plein d'amis autochtones, pour avoir voyagé beaucoup, non seulement ici, mais ailleurs au Canada, mais même ailleurs dans le monde, j'ai entendu toutes sortes d'expériences du fait d'être autochtone, d'être autochtone non seulement ici au Canada, mais aussi ailleurs. Et souvent ailleurs, on est aussi dans une histoire de colonisation et aussi de politique d'assimilation et d'extermination même dans d'autres pays. Donc, être autochtone, c'est comme je le dis, c'est toute une facette. Donc, c'est aussi une expérience commune, et on a des expériences communes qui sont issus de politique.
Ouais, c'est ça que j'allais dire un peu, Natacha. Personnellement, moi, je me suis retrouvé dans ton livre parce que j'ai vu à quelque part aussi mon propre parcours de recherche de mon identité. Tu remplaces le fait que toi, tu étais un artiste par le fait que j'étais un politicien en devenir. Quand je me suis commencé à m'impliquer dans le mouvement des centres d'amitié autochtones, j'ai vécu mes premières cérémonies, j'ai rencontré des Autochtones de partout dans le Canada qui... Je me sentais pas à l'aise à quelque part, des fois quasiment un fraudeur. Est-ce que je suis juste comme un gars qui a un nom autochtone mais qui l'est pas vraiment, tu sais? Je me disais ça des fois quand j'étais plus ado, puis de voir cette quête-là, c'est quelque chose qui doit arriver souvent. T'as dû en entendre souvent parler des jeunes comme ça qui ont eu à rechercher leurs racines.
Oui, exact. Et en fait, c'est ce que j'allais dire, Monica, c'est vraiment, en fait, oui, il y a des parts de moi, mais comme je dis, il y a tellement de choses communes à presque chacun de nous, qu'elle est le tissage de toutes ces expériences-là qui nous sont communes. Et c'est pour ça que j'ai voulu, quand Monica m'est apparue, en fait, dans ma tête, puis que je la voyais comme bouger un peu dans son univers, et que je me suis mis à écrire, je me suis rendu compte qu'elle voulait justement raconter une histoire. Et en cherchant, puis en écrivant, donc en voyant l'histoire, le récit se dessiner, je me suis rendu compte qu'elle voulait que je raconte cette expérience-là spécifiquement dans laquelle plusieurs d'entre nous pourront nous retrouver.
Il y a un moment très, très fort dans le livre, une espèce d'épiphanie, là, de coup de foudre identitaire. Vous le trouvez comme un modèle. Parlez-moi un peu de cette Rebecca Belmore.
Oui, Rebecca Belmore, c'est une très grande artiste chez nos nations. Elle est d'origine Anishinaabe, je pense de l'Ontario. Et ça fait une trentaine d'années que maintenant, elle crée, elle sculpte, elle performe, elle fait des performances qui nous bouleversent, qui changent notre façon de voir le monde. Et pour moi, j'ai connu Rebecca Belmore dans mes premières recherches sur l'art autochtone il y a plus de 10 ans dans mes cours d'art visuel, et en fait, moi, je l'ai vécu à ce moment-là, ce coup de foudre-là, je dirais, et c'est dans ces œuvres que je me suis trouvée, moi, en fait, en me cherchant justement en tant qu'artiste, qu'est-ce que je voudrais faire, qu'est-ce que je voudrais devenir comme artiste, de quoi je voudrais parler. Mais quand j'ai vu ces œuvres, j'ai su tout de suite de quoi je voulais parler, notamment dans ma quête personnelle, mais aussi de ces injustices-là, il y a 12 ans qu'on commençait à peine à lire, en fait, publiquement. Et c'est juste, il y a quelques années, moi, j'avais vu sa rétrospective en Ontario, avant qu'elle vienne à Montréal. Et encore une fois, ça m'a rappelé, moi, toute jeune, quand je faisais mes premiers pas dans les arts, à quel point elle m'a donné une direction, en fait. Ensuite, j'ai revu de ses œuvres encore à Sakaran, à Ottawa, et finalement à Montréal, il y a quelques années. Et c'est là aussi, même, on m'a invité à écrire un texte en son honneur. Mais en tout cas, comme quoi elle a encore beaucoup d'influence pour moi, et j'ai voulu lui rendre hommage pour cette influence-là qu'elle m'a faite dans ce livre-là, justement.
Vous en parlez d'elle comme d'une source de remède aux amours toxiques et même une mère de remplacement.
Hein? Ah ouais? Ah non, je ne l'avais pas vu comme ça. C'est plutôt ma guide du début à la fin depuis très, très longtemps.
On va faire de musique?
Oui.
On revient dans quelques minutes. Hein? Oui. Formidable. Merci, Natacha. À tout
Merci.
De suite.
On écoutait Infini, une de tes chansons, Natacha. Donc, en plus de sortir un livre, tu as sorti un petit EP dernièrement.
Oui.
Tu as décidé de vouloir t'exprimer, parce que je savais que tu t'exprimais déjà en art visuel, en chanson. Le slam, la chanson, la poésie, tu trouves qu'il y a une certaine parenté, j'imagine?
Absolument. En fait, même ça fait plusieurs années que j'écoute toutes sortes de choses. J'étudie même les textes des chansons. Je cherche comment moi je pourrais trouver ma voix. Tu sais, avec la musique justement en chanson, comment est-ce que je peux construire à partir de la poésie, de mes poèmes, des chansons, des compositions. Et en fait, depuis longtemps, j'ai toujours eu la vision que les chansons, en fait, sont des poèmes en elle-même, et elle comporte des poèmes, et chacun, chaque, je dirais, auteur, compositeur, interprètes sont des poètes à la base. Pour être capable de mettre des mots sur la musique, c'est vraiment comme, c'est un art aussi, c'est un art que j'ai voulu apprendre ces dernières années. Puis en même temps, ça fait longtemps, ça fait une dizaine d'années maintenant que je fais du slam, la poésie, et c'est plus comme ça que j'ai commencé avec la scène, sur scène, devant le micro, donc... Maintenant, je fais un spectacle qui s'appelle Nuit mondaine, puis c'était mon but de revenir à ça, de revenir à la poésie clamée et tout ça. Et finalement, c'est sûr, la musique, je viens souvent accompagner des textes, de la poésie, quand il y a des poèmes à cappella, bien sûr, mais c'est sûr que la chanson venait. Et avec le temps, ça fait maintenant 3 ans qu'on est en tournée avec Nuit mondaine. Et on s'est dit, on a envie d'enregistrer quelques chansons d'erreur, l'accueil des gens. Puis on s'est dit, on va enregistrer 6 premières petites chansons pour ensuite, peut-être, si tout va bien, en enregistrer d'autres après les fêtes, simplement pour... l'album, c'est comme un témoin, en fait, du spectacle ou une façon de garder en souvenir qu'est-ce que nous, on a vécu sur la route avec ce spectacle-là.
J'ai remarqué sur l'album, Natacha, que c'est pas Natacha Canapé-Fontaine, c'est Natacha Canapé tout court. C'est une revendication de ton identité nous?
Non, mais Fontaine, c'est Inou, c'est très, très Inou comme canapé, qui est très, très Inou de Pessamit, notamment. Okay. Puis, en fait, c'est parce que quand on parle de musique autochtone, de musique Inou, il y a beaucoup de canapés, comme Michel Canapé, Éric Canapé, Nimo Canapé. Les deux premiers ont fait partie, font partie du groupe Pédabonne depuis 30 ans. Nimo Canapé a déjà fait de l'humour chez nous, mais il est surtout chanteur avec son groupe Nimo Can Friends. Donc, j'avais envie de quand je monte sur scène, quand je fais de la musique, qu'on me reconnaisse comme une
canapé.
Oui, c'est ça, quelqu'un qui suit cette route-là et qui en même temps amène la poésie à sa façon, fait son art à sa façon, sa musique à sa façon, mais en même temps en étant reconnu comme de cette lignée-là d'artiste de ma communauté. Et Natacha Canapé-Fontaine reste quand même mon nom d'autrice, mais sur scène, j'avais envie d'être justement de provoquer cette conversation-là. Pourquoi canapé, seulement canapé? Mais c'est parce que je suis issue d'une culture musicale très, très forte, très animée sur la Côte-Nord, sur l'Unitasinane. Donc, en même temps, je donne à savoir aux gens que cette musique-là existe, cette tradition contemporaine existe chez moi.
Dans ton livre, tu nous parles des New Nikamun. Tu vas jouer là bientôt, l'été prochain?
C'est parce que au moment, tu sais, je voulais que Monica retourne sur la Côte-Nord au moment où traditionnellement nous, les Inuits, on retournait dans le nord. Donc c'était toujours à l'automne, bien sûr, mais surtout au mois d'août.
Ouais.
Et au mois d'août, quand elle revient justement du Mexique, elle passe un bout de temps à Montréal, mais elle veut retourner chez elle. Au mois d'août, il y a les festivals comme Inu Nogumu et aussi. Je ne l'avais pas finalement nommé dans le livre, mais il y a les festivités du 15 août à Pessamit. Et je me suis dit, parce qu'il y a eu, l'histoire du festival Inugumu est très spécifique. Hein? On sait que le festival se tient sur l'ancien site du pensionnat de Maliotinam.
Ben oui.
Et en même temps, ce que Inugumu veut représenter, c'est cette résilience, cette force, cette capacité à passer par-dessus le négatif pour créer du positif, puis un rassemblement où la fierté est la grande... je sais pas comment dire, la grande maîtresse, je sais pas comment dire. Et pour moi, ça représente vraiment ce qu'on est capable de faire, en fait, et je voulais quand même rendre hommage, notamment avec les sujets abordés dans le livre, rendre hommage à ce festival.
Parmi les sujets, Natacha, abordés dans le livre, il y a tous les aléas de la relation mère-fille qui est très différente avec la relation avec la grand-mère.
Ouais.
Peux-tu nous expliquer ça un peu?
Oui, parce que, en fait, c'est ce qui se passe, en fait, puis on va en parler de plus en plus, puis j'ai voulu, comme déjà, mettre les premières pierres de cette conversation. C'est que maintenant qu'on aborde de plus en plus les pensionnats, il y a les survivants notamment qui partagent de plus en plus leurs témoignages, même qui répètent ce qu'ils ont déjà répété il y a une dizaine d'années avec la Commission de vérité et réconciliation. Et depuis les découvertes des corps d'enfants derrière les pensionnats cette année au Canada, on va de plus en plus parler de l'impact, en fait, des pensionnats sur nos vies, mais sur les descendants et sur ma génération. Et ma génération est vraiment dans cette recherche de comment comprendre l'ampleur des conséquences, parce que je pense qu'on minimise encore ces conséquences-là. Et ce qui fait que dans nos familles, en fait, on peut en parler, on en a parlé jusqu'ici, mais on dirait que c'est encore très, très vague, comme on n'imagine pas les vrais effets de par quoi les enfants des pensionnats ont passé physiquement, mentalement et tout ça. Et ce qui fait que ça a donné des enfants qui n'ont pas été capables, quand ils ont eu des enfants, d'être des parents. Et finalement, leurs enfants, n'ayant pas eu de parents, n'ont pas pu être des parents à leur tour pour leurs enfants, qui est ma génération. Et dans mon cas, et comme dans le cas de plusieurs autres personnes, j'ai voulu illustrer justement une expérience encore commune, qui est peut-être plus commune qu'on peut l'imaginer, qui, du fait que, des fois, ma génération n'a pas eu de vrais parents.
Mais ça, c'est super intéressant quand vous dites que vous n'avez pas eu de parents, toujours, votre génération. Et il semble bien, en lisant le roman, en tout cas, que vous avez remplacé parfois les parents par des toxicités de produits ou d'individus.
Mais en fait, c'est pas nécessairement ça, hein. C'est plutôt les dépendances viennent avec le fait, avec le vide, en fait. Avec le vide qui a été provoqué par les abus qui ont été commis au sein des pensionnats. Et les dépendances sont assez normales, notamment quand l'humain ressent un vide, parce que justement, on tente de remplir ce vide-là. Et ce qui fait ensuite que ce vide-là, on amène une dépendance, ensuite on peut, si on n'a pas les outils ni l'éducation pour comprendre quelles sont les dépendances et d'où elles viennent, donc nous on sait aujourd'hui que ça vient des pensionnats, si on n'a pas les outils, il y a des gens, et c'est là qu'on, qui ça peut amener toutes sortes de conséquences, ça amène des gens à ne jamais croire en leur propre avenir. Et en réalité, ce que je prouvais avec ce roman-là, justement, puis avec le fait que je puisse produire ma musique, puis tu sais, j'ai rêvé à toutes ces choses-là que je fais maintenant, et j'y ai accès, je peux le faire. C'est parce que j'ai réussi à aller apaiser, mais j'ai utilisé l'art pour le faire aussi, mais à apaiser toutes ces douleurs-là en moi provoquées par ces violences. Et en fait, mon but, c'est non seulement de me libérer de ces violences-là et de leurs conséquences, mais c'est de prouver que notre force qui vient non seulement de nos ancêtres, qui étaient des nomades, qui étaient des philosophes, des génies aussi, que en fait, ça coule encore dans nos veines, puis avec leur seule force, on est capable de se sortir de ça. Se sortir, en fait, des conséquences de l'histoire. Et justement, il n'y a pas nécessairement de remplacement dans ce livre-là en réalité. C'est plutôt des explications d'expériences. Et ma volonté, c'est de donner des outils, non seulement aux jeunes, mais à ma génération,
Des outils et des avertissements aussi. Il y a une phrase que j'ai adorée qui dit « Oui, une femme en devenir, et pour ça, il ne faut pas laisser des corbeaux venir prendre son cœur. » Les corbeaux, ils ont toutes sortes de formes dans la vie.
Toutes sortes de formes dans la vie comme dans le livre, parce que en même temps, les corbeaux chez les cultures autochtones vont souvent être des guides et souvent être aussi des tricksters en quelque sorte. Mais si on se laisse influencer par la vision du corbeau chez les cultures occidentales, qui est beaucoup plus négative, beaucoup plus justement un peu toxique peut-être, beaucoup plus comme sombre, si on se laisse influencer par ça, on va croire que les corbeaux vont venir nous manger comme des charognards.
Natacha, on avait pris des heures avec toi. Malheureusement, c'est la fin de l'entrevue.
Des journalismes!
Je rappelle qu'il y a ton spectacle qui sort.
Est-ce que
bien.
Tu peux dire le titre de son roman? Moi, je peux pas le prononcer.
Laoué Dagwen.
Un silence pour un bruit qui était disponible en librairie. Ton spectacle, donc, qui va être aussi en supplémentaire le 11 décembre à la Salle des Arts, le 15 décembre à Varennes, le 3 février à Vanier, 5 février à Richemont et le 18 mars à Quaticook. Vraiment, Tickets Smitten, Natacha, c'est un plaisir de te recevoir à notre émission.
Merci.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Au revoir.
je creuse la boue, je titube les rues, je bois le feu, le soleil, le rivage peuple mon corps, il est à moi le monde, je ne sais pas parler aux étrangères qui m'habitent. Assoiffé, je creuse la boue, je titube les rues, je bois le feu, le soleil, le rivage peuple mon corps, il est à moi le monde, je ne sais pas parler aux étrangères qui m'habitent. Les seins naviguent, mes seins droites dans l'aube. Je n'ai pas oublié le goût des lèvres. Aucun empereur n'aura la main sur moi. Un subalterne aura du riz à poser dans mon lombril. Mes entrailles porteront des fils illégitimes et donneront naissance à des champs de maïs pour nourrir mon peuple. Pour nourrir mon peuple. Assoiffé, je creuse la boue, je titube les rues, je bois le feu, le soleil, le rivage peuple mon corps, il est à moi le monde, je ne sais pas parler aux étrangères qui m'habitent. Les seins naviguent mes seins droites dans l'ombre. Je n'ai pas oublié le goût des lèvres. Aucun empereur n'aura la main sur moi. Un subalterne aura du riz posé dans mon ombre. Mes entrailles porteront des fils légitimes et donneront naissance à des champs de maïs pour nourrir mon peuple.
Vous écoutez, Koué, bonjour.
Natacha, quelle personne attachante.
Oui.
Quelle grande autrice aussi. Son livre est extraordinaire.
Quelle grande artiste. Ça fait longtemps qu'elle roule sa bosse dans le milieu des arts des Premières Nations. Moi, je suis heureux de voir qu'elle prend sa place comme ça dans le paysage médiatique québécois. Alors.
Et c'est pas si facile qu'on pense, Alexis, parce que quand on est multidisciplinaire en art, on est souvent très mal accepté. On veut que tu fasses uniquement de l'art plastique, uniquement de la littérature, uniquement de la chanson, uniquement du roman. Mais quand tu peux faire comme elle tout ça, souvent, c'est difficile d'avancer. Dans son cas, à elle, non. Et le roman est extraordinaire. Par exemple, la façon qu'elle a de décrire les femmes.
Ouais.
D'abord sa vie à elle, les femmes qui l'ont entourée de son âge, mais sa mère, comme elle nous disait il y a quelques minutes à peine, sa grand-mère. Sa tante.
La rencontre avec sa tante, j'ai pleuré moi en lisant ça.
C'est absolument magnifique. Et quand on lui pose des questions, tu sens que ça n'a pas été dit rapidement comme ça. C'est pas du slam. Elle peut faire du slam, elle en fait très bien. Mais quand elle se met à parler sérieusement, à réfléchir sur ses sentiments, c'est autre chose.
Mm.
Là où c'est très beau aussi, c'est que pour une femme qui s'exprime autant, elle fait l'éloge du silence de façon exceptionnelle. Et ça, je pense qu'elle apprend ça de son héritage autochtone, moi.
C'est possible, on n'a pas peur du silence chez les Premières Nations, comme on peut avoir peur dans les sociétés occidentales.
C'est pour ça que quand le micro ouvre, tu parles plus, là, c'est ça? On écoute un coup de musique, puis on revient après?
Exact.
OK.
Got the moon. wet, wet, de wet, mouche, kachi, wet.
C'était Ouas de Claude McKenzie.
Oui. C'est ça, c'est bon.
Claude McKenzie qu'on a connu aussi de Cashtin, c'est ça?
Ah, c'est extraordinaire. La guitare là-dedans est exceptionnelle. Vraiment très bon. C'est drôle parce qu'on parlait de silence chez les Autochtones et dans la chanson, il y en a un grand silence, comme par hasard. Hey, on parlait de radio parce que on aurait un invité qui était pris, je ne sais pas, il a dû faire une crevaison quelque part. Gilbert Volant, qui était, vient d'être nommé directeur général de la chaîne de radio communautaire CKAO à Manioténam. Si on parlait un peu de radio communautaire, toi, est-ce que tu as été mêlé de près, toi, Alexis, à la radio communautaire?
Non, mais je sais que c'est d'une importance vitale pour beaucoup de communautés. Je pense, entre autres, à Lac-Simon, où on a entendu la langue Anishinaabe grâce à la radio communautaire de la communauté, chez les Inuits, chez les Atikamekw. La SOCAM qui est un réseau de radios communautaires Atikamekw et Inuits, qui fait en sorte que les nouvelles se diffusent dans la langue des gens, qui fait en sorte que les gens puissent entendre leur langue continuer d'être vivante sur les ondes hertziennes. C'est quand même quelque chose d'assez fantastique.
Est-ce que les gens l'écoutent vraiment?
Ben oui, dans les communautés.
Parce que
gens...
des fois, on pourrait aller à côté de la traque là-dedans, mais non.
Oui, on l'écoute vraiment. Puis en plus, il y a le bingo souvent qui passe à la radio communautaire.
Ah, ça, veux-tu que je t'en passe le bingo? Ça, c'est le cancer de la radio communautaire. OK, je vais te le dire, parce que j'ai été longtemps président de CIBL à Montréal.
Là. OK.
Écoute bien, le bingo, c'est, des fois, t'as pas le choix parce qu'il faut que tu finances la station. Mais tu sais, avoir un tel... C'est comme jouer de la loterie ou jouer juste sur le gain... Quand tu essaies d'avoir
mais
une radio avec une présence
chose
sociale.
Dans les communautés. Là, donc...
ah, je sais bien que c'est populaire.
En plus,
sais.
Avec la pandémie qui avait eu lieu, il n'y avait plus moyen de se réunir pour faire des grandes soirées bingo. Le financement de ben des activités communautaires, c'est fait par le biais des radios.
Moi, j'espère pour les radios communautaires autochtones, c'est l'expérience que j'avais à Montréal avec CIBL, c'est que ça soit fait avec des studios qui soient vitrés et que les gens puissent aller voir la radio qui se fait. Et ça change énormément. CIBL, on est parti de l'Est de Montréal pour venir au centre-ville de Montréal. Sous vitrine, ça, j'y ai fait pour beaucoup là-dedans, pour que les gens sur la rue Sainte-Catherine et Saint-Laurent
puissent voir
les gens. Et ça change tout. Et je fais mettre des haut-parleurs dehors au coin de la rue pour qu'ils puissent entendre ce qui se passe dans le studio. Là, les gens comprennent. La présence est beaucoup plus forte de cette façon-là. Je le souhaite aussi aux Autochtones de faire ça.
On se souhaite-tu à nous? On demande-tu à Canal M d'avoir un studio vitré sur le bord de Sherbrooke?
Good luck. Un peu de musique à la place, ça va être plus simple.
Qu'on s'est pas vu, pardon de t'avoir perdu. C'est pas toi, mais moi qui a fait exprès. Pardon, j'ai manqué l'arrêt. Ton visage est caché par la ville. Je sais, t'as mal, t'en rases, tu ne respires plus. Et j'irai voir toutes tes créations, plus croire. Temps perdu, même si ta route est ardue, allons longer des veines en canot et être comme les cheminots. M'acceptes-tu comme
c'était Canen, Teven en canot.
Alexis, Constance Lake, c'est dans le nord de l'Ontario, état d'urgence à cause d'une éclosion de biastomycose, une espèce de maladie fongique. Mm-hmm. 4 morts. Jamais entendu parler de cette maladie-là, en tout cas pas à Outremont ni à Westmount.
Hein? Moi non plus. Puis en lisant l'article, on découvre qu'ils ne savent pas d'où vient la source. Donc, l'état d'urgence se poursuit. 4 morts, des malades. Ça arrive souvent dans des communautés qu'on a des maladies spéciales ou même la tuberculose qui se propage.
Encore.
C'est...
Je pensais que c'était fini, ça.
Oui, mais c'est des questions souvent de conditions socio-économiques, hein? On tire les richesses du territoire, on enlève nos possibilités, on nous force à vivre ensemble dans des réserves. Puis, il arrive des choses comme ça.
Dans des conditions difficiles, comme cet avis de non-consommation de l'eau là, à Iqaluit, ça a été élevé, mais c'est pas sûr s'il y a de la bonne eau.
Ça
recommence, cette affaire-là?
Ça fait 2 mois. Il avait installé les réserves de diesel pour les génératrices à côté du système d'eau.
Non.
Ouais.
Ben, voyons donc. Et c'est pas des décisions autochtones, cette passée-là?
Ah, ben là, ça fait longtemps que c'est administré comme ça. Je sais pas trop d'où vient la décision, mais en même temps, il y a le Service autochtone Canada qui est supposé d'offrir du soutien à une communauté pour le développement de leur eau potable. 2 mois sans eau potable. Est-ce qu'on aurait accepté ça dans une communauté dans le Sud?
Jamais.
Pour des non-autochtones?
Ben, non. Faut bien l'avouer... En parlant d'Autochtones, puisqu'on parle rien de ça de toute façon, puis c'est une chance parce que c'est l'émission consacrée à ça, heureusement d'ailleurs. Gestion de forêt, mais gestion de feux de forêt maintenant aussi dans Colombie-Britannique.
Ben, on le sait, partout dans le monde, les territoires qui sont sous la garde des Premières Nations sont en meilleur état, sont mieux conservés, il y a une plus grande biodiversité. Des feux de forêt, il y en avait dans le temps, il y en avait dans le passé.
Il y en aura toujours,
d'ailleurs. Il y en aura toujours. Ouais. Et on avait des techniques pour pouvoir les contrer, les atténuer, faire en sorte qu'on ait des barrages de feu ou des choses comme ça. Des techniques qu'on a souvent ridiculisées. Puis, on le voit dans l'article aussi, c'est de juste planter des forêts pour qu'elles aient un rendement économique, on la met encore à risque. Si on en plante des saules, si on plante des conifères, on mélange, on a une diversité dans la forêt... On va faire en sorte que la forêt va être plus résiliente, plus résistante aux feux de forêt, puis il va avoir moins d'impact.
Mais si on fait des plantations pour un jour les récolter et faire de l'argent, c'est vraiment monoculture qu'on fait, par exemple.
Ben oui, c'est la monoculture de conifères, puis c'est plus dangereux, puis c'est plus à risque pour les feux de forêt.
D'autant plus que le réchauffement de la planète est là. Hein?
Mm-hmm.
Ça aide pas non plus.
Il risque d'avoir d'autres événements comme ça.
Justice pénale. Ottawa veut rendre la justice pénale plus équitable pour les Autochtones. Encore une bonne intention d'Ottawa. Y en ont-tu des bonnes intentions?
Il y en a des bonnes intentions. Est-ce que c'est à cause que les prisons sont trop pleines puis on se trouve une bonne...
Quelle raison! C'est pour ça qu'on voudrait... non, ça c'était effrayant.
Non. En tout cas,
C'est peut-être vrai.
C'est peut-être en partie vrai, mais bon... Ceci étant dit, blague à part, il y a une surreprésentation des personnes autochtones, puis on l'a dit aussi dans l'article, des personnes noires dans les prisons par rapport à leur démographie. On en voit, puis Harper a été un champion de ça, là, de les peines minimales obligatoires. Donc le juge, il est là, il voit une déclaration de culpabilité et il n'a pas le choix de donner un 5 ans, un 2 ans, un 3 ans sans tenir compte du passé du criminel ou de la personne qui a plaidé coupable, à se sans tenir compte du fait qu'il y a peut-être plaidé coupable ou des choses comme ça pour atténuer, pour faire la reconnaissance de ses actes. Donc, le fait d'avoir des peines minimales obligatoires a amené beaucoup de gens comme ça à être criminalisés, à aller vivre les stigmates de la prison, parce que là, on embarque encore dedans une autre façon d'avoir des stigmates, d'être... étiqueté comme un prisonnier par la suite, de vivre, c'est pas des milieux faciles. Là. Il y a souvent des gens qui ressortent de prison avec des chocs post-traumatiques aussi. Là.
Il y a 60 ans, je commençais ma carrière à New Carlisle, en Gaspésie. Mm-hmm. C'est un chef-lieu de comté, il y a une prison, il y a une cour, c'est toujours là d'ailleurs. Ouais. C'est des neufs, mais à l'époque c'était là. Il y avait le vieux juge Duguay qui était là. C'est lui qui a jugé l'affaire Coffin d'ailleurs. Mais il y avait cette prison-là, était pleine d'Autochtones, la plupart de la région de Maria, mm-hmm. qui venaient là. Et quand ils les condamnaient, c'était 2 et 3 fois plus long que des Blancs qui pouvaient avoir des problèmes à Passe-Pébiac ou à côté ou à Saint-Omer ou quoi que ce soit. C'était évident. Et ils disaient toujours, ça va leur donner une meilleure santé pour passer l'hiver s'ils sont plus longtemps dedans. T'sais? Puis ils ne gênaient pas pour le dire. On a l'impression, quand on compte ça, qu'on compte des caricatures, qu'on exagère, qu'on compte des blagues. Pas du tout.
Non, puis encore aujourd'hui, les chiffres nous le prouvent. C'est encore ça qui se passe, sans nécessairement qu'il y ait de mauvaise foi. On a juste pris des actes qui devraient être plutôt traités dans le domaine des services, de la santé, des services sociaux,
ouais.
Des questions de santé mentale. On va mettre ces gens-là en prison quand il y aurait besoin plutôt de services de réhabilitation.
Je vais amorcer un sujet, puis je pourrais presque parler à ta place, j'en suis sûr. Les Oblats à Rome, prêts à fournir des archives sur les pensionnats pour autochtones. Tu vas me dire, as-tu d'autres choses à fournir?
Vas-y, mon Robert, hein, garde-toi.
Oui, oui, mais ils pourraient offrir d'abord des regrets, puis ensuite un gros chèque, comme tu dirais.
Oui. Moi, je regarde. C'est important pour certaines personnes, comme je me répète tout le temps. Il y a des gens qui sont encore catholiques chez les Premières Nations. Il peut avoir une importance symbolique pour ces personnes-là de voir que les institutions peuvent avoir un peu d'empathie, un peu de compassion. Mais au-delà de ça, les changements aujourd'hui, c'est pas entre les mains des catholiques, c'est pas entre les mains des religions que ça va se faire.
Principe de Joyce, ça avance-tu? Ça marche-tu? C'est une attitude dont on fait attention?
Ben, le gouvernement veut rien savoir de ça parce qu'on parle de racisme systémique. C'est drôle, hein, quand même. On accepte les conclusions du rapport Villain qui parle de discrimination systémique, mais on veut pas accepter le principe de Joyce. Mais bon, les universités qui enseignent le collège des médecins, en tout cas l'ordre des infirmières, le collège des médecins, je suis pas sûr, mais on voit qu'il y a des institutions non gouvernementales, des institutions de la société civile qui prennent en compte le principe et qui vont le mettre de l'avant.
I can't make it, no. Atikamekino, Atikamekino, Atikamewetino, Atikamekino, Atikamekino, Atikamekino.
C'était l'artiste Inou Scott-Pierre-Picard avec l'artiste Yvan Boivin Flamand, qui est un artiste Atikamekw. La chanson s'appelait Atikamekw Inou.
Comme par hasard. Alexis, es-tu content que Marjolaine Étienne ait été élue présidente des femmes autochtones du Québec?
Oui, ben moi je connais un peu Marjolaine. C'est une femme de conviction.
Es-tu quelqu'un que tu connais pas parmi les autochtones?
Ben,
peux-tu
oui.
me faire une liste? Non, pour toi, c'est une belle nomination.
Oui, donc une femme persévérante, une femme droite, engagée dans sa communauté, engagée politiquement, qui a été vice-chef de sa communauté, qui a une vaste expérience. Je pense qu'elle va être très bonne pour servir les femmes autochtones. Faudrait l'inviter à l'émission.
Noutachkouan qui s'est payé un maire Inou, hein?
Ben oui, il y a eu des débats autour de ça. Je sais
il
pas
a dû un... avoir des petites réactions.
Oui, ben à Noutachkouan, le village blanc, on a dit « Ah ben c'est ça, les Inou viennent nous envahir ». Il y a eu certaines réactions qui allaient dans ce sens-là. C'est une drôle d'affaire parce que les communautés autochtones... sont considérés dans les territoires des municipalités. Donc, Noutachkouan, qui est beaucoup, beaucoup plus élevé, beaucoup plus grande en population que Noutachkouan, a eu la possibilité de voter dans les élections municipales de Noutachkouan. Et ce qui a fait en sorte que M. Inou, M. Wapistan, si je me rappelle bien, a décidé de se présenter aux élections. Il est devenu maire. On se disait à Noutachkouan, ouais, ben peut-être que ouais, ça devrait arriver un jour, là, peut-être un conseiller, puis tout ça. Ben non, bing, bang, pouf. Première fois qu'il y a un Inou qui se présente, c'est à la mairie.
Ils vont avoir affaire
il a remporté.
À s'adapter. Hein? C'est dans la normalité des choses. Il n'y a pas de raison que ça pose des difficultés, mais on peut comprendre que pour une première fois, ça peut créer des réactions.
Oui, ben, en tout cas, le chef de Noutachkouan était bien fier de voir un de ses membres devenir maire de la municipalité voisine.
L'Ontario s'entend avec des Autochtones sur la création d'une aire de conservation marine.
Mm-hmm. Oui, donc la conservation, comme je le disais plus tôt, les territoires qui sont sous la gestion des Premières Nations sont en général mieux conservés. Ici, on a un autre exemple où il faut aller chercher, je pense, cette collaboration-là. Parce qu'on a des questions de biologie, on s'en va vers un effondrement de la diversité biologique avec les changements climatiques aussi au travers de tout ça. Donc, on va faire en sorte qu'il y ait le plus d'air possible qui soit protégé et sous la gestion des Premières Nations, s'il vous plaît.
Au Maine, ils viennent d'avoir un film, nos livres d'histoire vont se revirer tout ça à l'envers sur les tablettes. Là. Un film qui reconnaît que les Autochtones ont été scalpés. On a toujours dit que c'était les Autochtones qui scalpaient les Blancs.
C'est une pratique amenée par les Anglais pour faire des preuves qu'on a tué assez d'Autochtones.
Parce qu'ils étaient payés tant de la tête. Là.
Ouais, en Californie, entre autres, dans le Rush Gold, il y avait ça. On avait des bounties sur des primes sur... Les Autochtones, on avait quelque chose comme 5 piastres par Autochtone qu'on tuait, qu'on ramenait une preuve.
Le même prix que pour les bisons.
Ouais.
Mais pour dire, et les bisons, tu sais pourquoi on les tuait dans l'Ouest américain?
Pour affamer les Autochtones.
Exactement.
Parce qu'il fallait leur enlever leur mode de vie, puis leur enlever leur garde-manger.
Dernière nouvelle, mais il faut la souligner, Barbara Canneratoni Diabo remporte un prix d'interprétation en danse, et c'est important.
Mm-hmm. Femme Mohawk. Donc, qu'on puisse voir nos artistes le plus rayonnés possible dans le plus de domaines. Je pense que c'est important d'avoir le plus de role model comme ça, de modèle pour les jeunes,
pour c'est un spectacle que j'ai vu, moi, il y a quelque temps, oui. Et que j'ai trouvé extraordinaire. C'est vraiment très, très, très élaboré comme symbolique. C'est magnifique.
Moi, qui aime la danse, faudrait que j'aille voir ça.
Ben, notre émission se termine. Alexis Wawanolowat ici.
Robert Blondin, à la
On se retrouve la semaine prochaine pour une dernière émission avant Noël.
Bien sûr.
Et on en garde un très bon souvenir aujourd'hui de la présence de Natacha.
Oui, c'était toute une entrevue.
Au revoir.
Au revoir.